il existe deux approches pour comprendre la Torah. Il y a une approche qu'on appelle une approche anthropocentrique, c'est l'homme au centre, on voit la Torah par rapport à l'homme, et il y a une approche théocentrique où Dieu est au centre. Bien sûr, vous allez dire que ça revient au même, mais vous allez voir la différence tout de suite. Le rôle des commentateurs, la majorité des commentateurs, explique la Torah par rapport à notre sens à nous, un sens rationnel. Entre autres, Maïmonide est le précurseur de cette voie, mais en vérité, avant lui, tous les maîtres de la Torah ont essayé de nous expliquer à un niveau rationnel le sens de la Torah. Bien sûr, qu'est-ce qu'il y a dans la Torah? Il y a des histoires et il y a des commandements. Des histoires, à savoir, il y a Caïn et Hevel, par exemple, la première histoire que nous connaissons. Bon, il y a le récit d'Adam Arishan, la faute d'Adam. Ensuite, il y a Caïn et Hevel. Il y a la mort de Hevel par son frère Caïn. Ensuite, bon, je saute, il y a le déluge avec l'arche de Noé, Abraham, Yitzhak, Yaakov, etc. En vérité, toutes ces histoires, il ne s'agit pas de nous raconter des histoires dans la Bible. Le Marchou, Rabbi Chaim Vital, qui est un grand maître de la Kabbalah, nous dit dans son introduction de Etzraim, au nom de son maître, le Arizal, que ceux qui pensent que la Torah est un livre d'histoire, c'est au fait l'erreur la plus grave qu'ils puissent commettre envers Dieu. De dire que la Torah est un livre d'histoire est une erreur flagrante. Parce que la Torah n'est pas un livre d'histoire. Et si, apparemment, la Torah relate donc certaines histoires, il faut savoir, bien sûr, pour tout le monde, ces histoires viennent nous enseigner au moins une leçon morale, une leçon d'éthique, à savoir une manière comment se comporter. Mais la Torah aussi se veut être un livre de commandement, un livre où il y a des mitzvot, des ordres, des commandements, pour nous arranger, pour nous réparer, etc. Cependant, il y a une autre approche de la Torah. Une autre approche de la Torah, et cette approche que nous allons parler ce soir, il s'agit donc de l'approche théocentrique. L'approche où Dieu est au centre. Le Icar, en vérité, c'est de retenir l'esprit divin qu'il y a dans la Torah. C'est-à-dire, on peut comprendre la sortie d'Égypte par rapport à un peuple qui était en Égypte à cause d'une faute, d'une erreur. Et ensuite, il y a une sortie d'Égypte. Il y a une sortie, et après cette sortie, en résulte une fête qu'on appelle la fête de Pessah. Mais si on s'arrête uniquement à la sortie d'Égypte en tant qu'un peuple qui se trouve dans une terre qui ne lui appartient pas, ensuite sa sortie, ensuite une fête, en fait, on a diminué ou réduit toute la grandeur de la Torah. Mais en fait, il ne s'agit pas seulement de la sortie d'Égypte ou de la Matzah, comme nous allons le voir tout à l'heure, ou de la fête de Pessah. Mais on dit, si je retiens uniquement la leçon de morale ou la leçon de la mitzvah, du commandement que je dois m'appliquer à accomplir, alors j'ai réduit l'essentiel de la Torah. Parce qu'en vérité, dans cette approche que j'appelle l'approche théocentrique, il y a un esprit de Dieu. Il y a une volonté de Dieu. Bien sûr qu'il s'exprime à travers une mitzvah, un commandement, ou à travers une histoire. Mais avant qu'elle s'inscrive dans un sens historique ou de commandement, elle représente quelque chose. Et c'est quelque chose que nous allons essayer donc de déceler à partir donc d'un exemple, puisque nous sommes à la veille de Pessah, nous parlerons donc de la sortie d'Égypte. Mais avant tout, ces deux approches, comme j'ai dit tout à l'heure, l'approche théocentrique, l'approche anthropocentrique, l'homme au centre, Dieu au centre, si je cherche uniquement l'homme par rapport aux mitzvot, par rapport à la Torah, je dis, bon, la Torah a été donnée aux hommes et ça les concerne. Mais la Torah est éternelle aussi. Si la Torah, la semaine dernière, nous avons lu, la Torah nous interdit de manger le hazir, le porc, de manger le gamal, le chameau. Alors, dans quelques années, ou dans une centaine d'années, ou dans 300 ans, ou dans 1000 ans, que va signifier pour nous le porc ou le mouton, ce qui est permis de manger par exemple? Au fait, s'il y a des permis et des interdits, c'est par rapport à notre situation à nous, c'est par rapport à notre histoire à nous. Mais bien sûr, la Torah, elle s'inscrit d'abord dans un monde de l'éternité. Et ensuite, elle rentre dans la temporalité. On rentre dans la temporalité, elle épouse les différents événements et les différents aspects de ce monde. Donc dans ce cas-là, si je m'arrête uniquement à cette enveloppe, ce malbouche d'après le Harizal, à savoir l'histoire ou la mitzvah, le commandement ou la morale que je dois tirer. À savoir si je dis que la Torah est venue apprendre deux choses, le moussa, donc une manière de me comporter, et aussi un acte que je dois faire au nom d'Akal Boruchou, parce que celui qui m'ordonne. En vérité, même l'acte que Akal Boruchou m'ordonne de faire en tant que mitzvah, d'après le Rambam, c'est aussi pour arranger les hommes. En mitzvot nitnu, et la tsaref, baimetabriot, le Rambam retient cet enseignement de nos maîtres, que les mitzvot ont été donnés, n'ont été donnés que pour arranger, que pour astiquer, comme une pièce d'argent qui est remplie donc de saleté, de scorie, donc on l'astique, on la frotte pour retirer ces saletés. Donc nous sommes l'homme qui a d'âme ra amené au rav, un homme ressemble à une bête, et que s'il se laisse aller selon sa nature, il se comportera comme une bête, la Torah vient donc pour les arranger. Pour arranger l'homme, pour arranger donc les hommes et la société. Mais en vérité, ça c'est un aspect de la Torah. C'est un aspect de la Torah et qui est retenu par l'Europe, par la majorité des maîtres d'Israël, puisque c'est ce que nous retenons dans la Torah. Mais pour ceux qui vont approfondir la Torah reflète aussi un autre aspect, et je dirais l'aspect, comme tout à l'heure, l'aspect ultime, l'aspect essentiel même de la Torah, et ce qu'on appelle l'aspect ésotérique, la pnimiut de la Torah. Il y a la chitsoniut de la Torah, il y a la pnimiut de la Torah, mais le rov des gens vont suivre la chitsoniut, donc l'extériorité, l'aspect qui est rationnel, ce que je comprends, à savoir une mitzvah, un commandement pour m'arranger, pour ne vole pas, ne convoite pas, etc. Donc même dans le commandement, il y a bien entendu un comportement moral. Bien entendu, il y a des mitzvot qu'on ne comprend pas, qui ne sont pas rationnelles, comme dit le Rambam. Et donc, il y a lieu parfois de chercher à comprendre aussi un sens rationnel selon Maïmonide. Mais, nous allons voir tout de suite que les mitzvot, d'abord, ont été donnés pour exprimer un esprit divin. Exprimer un esprit divin, cela veut dire quelque chose, au fait, au-delà de notre entendement. C'est vrai que nos maîtres, nos patriarches, plutôt nos pères, sous le Har Sinaï, ne voulaient pas de cette Torah qui va uniquement se tourner vers Dieu. Ils veulent une Torah qui est saisissable. Qui disait Moshe Loyadanu Mayalo. Ce Moshe, on ne sait pas qu'est-ce qu'il devient. Nos maîtres disent Miklala Vatashomehaen. En disant, on ne sait pas, ils insinuent qu'ils veulent savoir. Mikla lav atashomehaen. Ils veulent comprendre quelque chose. Qu'est-ce qu'ils veulent comprendre? Un sens terrestre, un sens rationnel, ici-bas. La Torah qui devrait être donnée, qui aurait dû être donnée, plutôt, avec Matan Torah, c'était les premières tables de la loi. Ces premières tables ont été brisées, et donc on a perdu cette possibilité de la voie de l'éternité, cette connaissance qui est de l'ordre de l'éternité. Pour le moment, nous sommes dans une connaissance qui est rationnelle, terrestre, et qui est de l'ordre, comme nous allons le voir tout de suite, de la dualité et non pas de l'unité. Puisqu'ils disent « Aselanu Elohim, Asher Yelchou Lefanenu » Fais-nous des dieux. Donc il y a un pluralisme dans la connaissance. Et nous allons tout de suite voir qu'en vérité, cette voie que le peuple d'Israël recherche dans la Torah montre une incapacité de saisir la Torah de Dieu. Ils veulent une Torah des hommes, ils ne veulent pas un harut à la ruchot, ils ne veulent pas un herut mimalach hamavet, ils ne veulent pas une Torah qui est dispensée de la mort, de la dualité, de l'impureté. Ils veulent une Torah aussi qui a affaire avec l'impureté et la pureté. Ce que dit la Gemara dans Yerushalmi, dans le Sanhedrin, que maintenant, après les deuxièmes tables de la Torah, les gens de la loi, nous avons affaire maintenant à même tête panim les tamé, ou même tête panim les tahor. Les 49 facettes de pureté, en parallèle aux 49 facettes d'impureté. Donc il y a tov vara, le bien et le mal, et il y a aussi l'impur, le porc et le chameau, et il y a aussi le tahor, à savoir les bêtes qui sont permises. Donc il y a les bêtes permises et les bêtes interdites. Mais en vérité, cette voie de permis interdit, pur et impur, c'est une voie qui est venue après la prison des tables de la loi, et donc après la faute du Vaudor. En fait, cela nous rappelle un petit peu la faute d'Adam Harishon. Adam Harishon aussi avait une proposition de deux voies. Quand on dit Etzahim et Etzadahat, ce sont deux drachim, deux chemins d'après le Ramchal. On a parlé déjà plusieurs fois de ces deux voies. En résumé, il y a une voie qu'on appelle Etzahim. Et là où apparemment il n'y a pas de Da'at, il y a une soumission, et je dirais peut-être une annihilation même du savoir humain, de l'expérience humaine. On accepte et on va selon la volonté de Dieu. Mitnorea minashoresh, aller selon le mouvement de la racine, de la cause première, comme le Malach. Hamalach mitnorea minashoresh, il reçoit tout son mouvement de Dieu. Il est conscient que sa vie, elle dépend que de Dieu. Par contre, l'homme, lui, n'est pas conscient. Même si Atam et Hayet Kulam, c'est Dieu qui donne la vie à tous et la subsistance à tous, cependant il faut savoir que l'homme n'est pas conscient d'où il reçoit son mouvement. Et au fait, ce n'est pas Dieu qui se dissimule, comme dit le Ramchal, En Hashem, En Ma'atzil, Mitztamtzem, En Atimtzum la Ma'atzil, Atimtzum ou la Ne'etzal. Quand on parle du Timtzum, du retrait de Dieu ou de la dissimulation de Dieu, le Ramchal nous dit, il n'y a pas de dissimulation au niveau de Dieu. Ce n'est pas Dieu qui se dissimule, c'est l'homme qui dissimule Dieu. C'est l'homme qui occulte la présence divine. Et donc, dans ce cas-là, il ne veut pas vivre cette présence qui est constante, une omniprésence. Donc, elle est trop dure pour lui. Donc, il veut cette dissimulation. Mais Dieu ne se dissimule pas, alors il va dissimuler Dieu. Il veut aller selon son expérience. Si Etzachaim, c'est aller avec Dieu et donc jusqu'à l'éternité, Etzadahat, c'est aller selon, d'après le Ramchal, son initiative personnelle. Quand on dit Etzadahat, c'est quoi Etzadahat? Que signifie Etzadahat? C'est manger un fruit. Il s'agit tout simplement d'aller selon sa voie, d'aller selon son initiative, sa liberté. Et donc, pour aller selon son initiative personnelle, nous allons vivre ce qu'on appelle l'expérience. Dans son expérience, l'homme va connaître Dieu. Mais dit le Ramchal dans Da'at Evunot, « Ma she Adam lo ratza le kabel bederecha emuna, et kabel bederecha mofet besof elef hashishi. » Ce que l'homme ne voulait pas recevoir le sixième jour de la création par la foi. « Ma she lo ratza le kabel bederecha emuna. » Et kabel auto, il va la recevoir, il va l'accepter à la fin du sixième millénaire, mais par la voie de l'expérience. La voie de l'expérience, qu'est-ce que c'est? C'est une voie qui est très difficile. C'est une voie où on se brûle plusieurs fois. C'est une voie où on se casse, parce que Ena Ornika et la mitoch haosher. Dans l'expérience, il y a des grandes difficultés. Et on ne vit une vérité que par l'autre face, que par l'autre côté. On ne comprend une chose que par son contraire. Et je donne toujours cet exemple, je le répéterai encore une fois. On dit à notre enfant, ne touche pas au feu. Ne touche pas au feu. Eh bien, il ne comprend pas pourquoi il ne doit pas toucher au feu. S'il est sage, il ne touchera pas au feu. Mais sans faire l'expérience du feu. Mais s'il n'est pas sage, alors il va falloir qu'il se brûle une fois, peut-être deux fois. Et si c'est un Israélien, il faut au moins trois fois. Donc, à la troisième fois, ou peut-être quatrième fois, il doit se brûler. Après, bon, maintenant j'arrête. Mais il faut qu'il fasse l'expérience. Mais en vérité, tous, on se comporte de cette manière-là. On n'accepte rien du tout que si « En Adam Omed El Abed Davar Shinir Shalbo » La Gemara a dit dans la Masechet Sota, un homme ne retient que là où il trébuche. Là où il a trébuché, là où il est tombé, c'est là où il va retenir. S'il n'a pas trébuché, il ne retient pas, il va le faire. Donc même si, sauf bien entendu, il s'agit du sage de Mekabel, de celui qui accepte l'expérience de l'autre, ou la sagesse de l'autre. Donc il ne s'agit pas donc, de vivre cette expérience, mais d'accepter par la sagesse. Ce que dit le Ramchal, ce qu'il ne voulait pas recevoir, qu'est-ce qu'il ne voulait pas recevoir dans Marichon le sixième jour? Il ne voulait pas recevoir, accepter l'unité de Dieu, ou la souveraineté de Dieu, que « En od milevado » qu'il n'y a rien d'autre que lui. Et voilà que l'homme va vivre maintenant l'expérience la plus difficile de sa vie. Il va vivre beaucoup de choses, mais qui ne sont pas Dieu. Il va vivre tout, mais sauf Dieu. Et toutes ces choses qu'il va vivre, donc l'expérience de tous les jours, vont l'amener définitivement, en fin de compte, à Dieu. « Mashelo ratza le kabel bederecha emuna » et kabel bederecha mofet. Ce qu'il ne voulait pas recevoir avec la foi, il va le recevoir à la fin avec l'expérimentation. En vérité, toute la science, c'est la recherche, ce qu'on appelle donc l'approche empirique, c'est vérifier chaque chose. Mais pour vérifier, il faut faire sauter beaucoup de laboratoires, il faut peut-être faire sauter le monde aussi, entièrement, pour arriver à une vérité. Et tout doucement, on se rapproche de cette vérité. Je dis souvent que aujourd'hui, ces dernières années, on se rapproche de la vérité. avec Internet, il y a toute une découverte extraordinaire de tout ce qui se passe en même temps. L'expérience de tous qui arrive. Mais c'est comme c'est sa date, l'Internet c'est sa date. Mais le Ra, il est plus grand que le Tov. Dans cet Internet, le Ra mitgaber à la Tov. Le mal, chut, le mal se multiplie, se renforce sur le bien. Le mal prend la puissance. Il prend donc, c'est l'écorce qui domine. Elle domine sur le Tov, sur le bien. Mais en vérité, tout doucement, il y a un birour. Il y a un birour, un éclaircissement dans ce Tov Avohu, où on va se rapprocher à partir de l'expérience de tous. Parce que Kol Mashé Bara, Kadosh Baruch Hu, Eno Bara, Ela Lichvodo. Tout ce que Dieu a créé, tout ce qui a été créé dans le monde, tous les événements, tous les actes de tous les hommes ne sont que pour la gloire de Dieu. Tous vont, tous tournent, tous convergent vers l'unité. Et donc tous vont prouver le Yichud, comme dit le Ramchal. Tous vont prouver le Yichud. Cependant, maintenant, on n'est pas capable de relier tous les événements et vers quoi ils concourent ces événements. Mais tout doucement, on se rapproche, avec une nanoseconde près, de voir tout ce qui se passe en même temps. Et si on réfléchit un petit peu de tout ce qui se passe en même temps, toute la base de l'informatique, elle se base sur une chose, une donnée qui est tellement simple, et tout a commencé avec cela, ce qu'on appelle le langage binaire. Avec le langage binaire, on est arrivé à tout traduire, mais de la même manière, il y a une formule et qui correspond à tout ce qui existe. Toutes les couleurs, toutes les formes, toutes les paroles, tout ce que vous voulez, c'est uniquement, c'est 0 ou 1. Il y a ou 1 ou 0. On arrivait à cette formule déjà, de présence ou non-présence. Un, c'est l'unité, c'est le Tout-Puissant Dieu, ou la dissimulation de cette présence. Mais rien d'autre. Tout ce qui existe, vous pouvez traduire n'importe quoi, n'importe quelle image, n'importe quelle couleur, n'importe quelle forme, n'importe quelle puissance, elle se résume à une seule formule, à une série de 0 et 1 et de 1 et de 0. Il n'y a que ça, il n'y a rien d'autre. Mais bien entendu, on n'est pas encore... On n'est pas encore arrivé à comprendre justement l'origine, la cause et le but de tout. Pour le moment, il s'agit seulement on accumule beaucoup de données, mais il nous manque encore le dénominateur commun. On n'est pas encore arrivé à voir ce dénominateur commun de tous les événements, de tous les hommes, etc. D'après le Ramchal dans le Kalapitei Hochma, c'est seulement dans Triat HaMetim, dans la résurrection des morts, lorsque l'homme va mourir, tous les hommes, à un moment donné, doivent s'éteindre. Après, quand ils se lèveront, tous se lèveront, mais qui va rester, c'est autre chose. Mais tout le monde doit se lever et voir, expérimenter, justement, la présence divine, le Gilui Hayichud, la révélation de l'unique. Et Dieu va nous montrer dans cette révélation que tout ce qui a été fait par tous les hommes de tous les temps, en vérité, n'a qu'une seule source, est dirigé uniquement par le seul maître souverain, El Ehad Yahid Umeyuhad, Dieu unique. Donc, comprendre à la fin le rapport qu'il y a de tous les événements, tous les actes de tous les hommes, de tous les temps, c'est là le Yahud, c'est là la souveraineté, c'est là unique. Que toutes les volontés, même les volontés qui sont insignifiantes, même les actes les plus insignifiants, ceci on a parlé déjà pratiquement dans tous mes cours, je rapporte cette idée du Yahud qui se révèle dans Triat HaMetim. Mais cependant, déjà, avec la venue du Messie, et je dirais avec la venue de Rabbi Shimon Bar Yochai, qui est le premier qui a révélé en vérité une autre phase, ou un autre aspect de la Torah. En vérité, la Torah ne vient pas m'enseigner seulement un code moral. Il y a au-delà de ce code moral, il y a un esprit divin. Si on n'est pas capable de comprendre la matzah sans la farine et sans l'eau, donc on n'a rien compris à la matzah. Si pour des gens, la matzah elle se résume uniquement à la farine et de l'eau, et comme dit la Torah apparemment, Terem Echmatz Betsekam, on n'a pas eu le temps de faire du pain. Donc pourquoi on mange la matzah? D'après le sens rationnel, le sens historique. Parce qu'on n'a pas eu le temps de faire du pain. On est sorti Kibehi Pazon Yatzatem Eret Mitzray. On est sorti pressé. On n'a pas eu le temps de faire du pain. Et faute qu'on n'a pas eu de faire du pain, à la place du pain, on a un pain des pauvres. Les pauvres n'ont pas le temps d'attendre que le four et la fermentation, etc. Ils mangent très vite. Déjà qu'ils mangent. Alors, Teremichmat Betseka, nous aussi, on n'a pas eu le temps de consommer du pain. Et on n'a pas eu le temps de manger du pain. Non, à la place, on a trouvé des matzot. C'est ça la raison pour laquelle on doit manger des matzot. C'est pas possible. Si on s'arrête qu'à cela, alors on a raté Pessah. On a tout raté. On n'a pas droit de s'arrêter à cette idée. Et d'ailleurs, le rachat pose la question. Le rachat, c'est une question mécréante. C'est le rachat qui la pose. Mazot, qu'est-ce que c'est tout ça? Le rabbi Chaim Ibrisk explique en vérité qu'il demande pourquoi tous ces détails, tout cette matzah, c'est a posteriori. C'est b'di'avad, on n'a pas eu le temps. Et nous devons commémorer toute la fête a priori, retirer tout le chametz. Et cette matzah qu'on a mangée en Égypte, tout cela pourquoi? On ne comprend pas. Ça n'a pas de sens. Qu'est-ce qu'on répond? Baravourze, asali adonali betete meret mitzray. C'est grâce à cela que je suis sorti d'Égypte. C'est-à-dire, ce n'est pas la sortie d'Égypte qui a engendré la matzah. C'est la matzah qui a engendré la sortie d'Égypte. Dieu voit la Torah, il a mis ça sur la matzah. Et maintenant, il va faire l'histoire pour qu'on puisse accomplir la matzah. Manger la matzah. Ba'avourze, c'est grâce à cela. C'est la matzah qui a engendré l'Égypte. Comment? Et là, nous allons essayer de comprendre une mitzvah, un commandement, mais de l'ordre, comme j'ai dit tout à l'heure, de l'ordre ésotérique, pas rationnel, pas historique, de notre ordre. À savoir, il y a un esprit divin, il y a une volonté de Dieu, et qui va s'habiller à travers une enveloppe. Si je m'arrête qu'à l'enveloppe, à l'histoire, alors je suis dans la chitsoniut. Je vis l'enveloppe, c'est comme une lettre, je reçois, alors je vois, quelle belle lettre. Ah, j'ai reçu une lettre, et je tourne les deux, mais j'ai jamais ouvert cette lettre. La lettre, elle est toujours fermée. L'enveloppe, elle est continuellement fermée. C'est le jour où j'ouvre, donc l'intérieur de l'enveloppe, c'est l'intériorité. Et il y a donc le message ésotérique qu'il y a donc dans la matzah, comme d'ailleurs dans toutes les mitzvot. J'ai pris l'exemple de la matzah. Nous allons voir tout de suite que c'est bien sûr, un exemple important pour comprendre la sortie d'Égypte. Mais avant tout, avant de comprendre justement c'est quoi cette matzah qui exprime Chag HaMatzot, toute cette fête, toute cette sortie, il y a d'abord un sens qu'il faut, il y a une compréhension, un sens qu'on doit retenir avec l'exil. Pourquoi l'exil? Parce que pour comprendre la matzah qui elle exprime la sortie de cet exil, il faut comprendre qu'est-ce que c'est l'exil. L'exil, c'est pas seulement être en dehors de la maison. On peut être dans la maison, être en exil aussi. D'ailleurs, quand nos maîtres parlent de l'exil des Grecs, c'est un exil qui se trouve en Eretz Israël. C'est vrai que l'exil de Rome, Titus nous a pris et nous a déracinés dans notre terre. Mais l'exil des Grecs, on était à l'époque du deuxième temple. Et nos maîtres parlent de Galout Yavan, donc les Mitzyavnim, en étant même en Eretz Israël, en suivant un certain mode de pensée, on peut être en exil. C'est vrai que l'exil de Babel se trouvait en Babylonie. L'exil de Édom, de Rome, se trouve à Rome. Mais l'exil aussi, c'est être en dehors de la présence de Dieu. C'est vrai qu'il est plus facile d'être avec Dieu en terre d'Israël. Mais reste que, on peut être en Eretz Israël et occulter cette présence aussi, comme il s'est passé à l'époque des Grecs. Qu'est-ce que c'est l'exil? Il y a marloqué dans la Gemara, dans Bava Kamma, pourquoi l'exil? Selon nos maîtres, la majorité des maîtres, l'exil a commencé avec Avraham Avinu. Lorsqu'Avraham dit, « Bame Eda, comment saurais-je ? » On est encore dans Eda, « Da'at, et sa da'at. » Qu'est-ce qu'il dit Avraham Avinu ?« Bame Eda, comment saurais-je que je vais hériter cette terre ?» Mais quand est-ce qu'Abraham pose cette question? Quand il a vu la plus grande catastrophe du monde. Il a vu les Brit Ben Betarim, l'alliance des morceaux, il a vu toutes les exils d'Israël. Il a vu la plus grande catastrophe. Les plus grandes catastrophes. Il a vu des millions de morts. Des millions de disparus. À la fin, il se dit, est-ce qu'il va rester quelqu'un à la fin de l'exil? Il restera quelqu'un? Et nos maîtres de dire dans le Midrash, c'est comme ce bébé qu'on veut jeter dans une fournaise de feu, et on lui dit, écoute, Au papa, on dit, tu sais, ce bébé qui tombe dans le feu, ne t'inquiète pas, il va rester vivant. Donne-moi une preuve qu'il va rester vivant. Ce que dit Abraham Avinu, Bame Eda, comment saurais-je que je vais hériter cette terre? Mais quand on pose la question, Bame Eda, comment saurais-je que je vais hériter cette terre? Alors Dieu répond à Abraham, Yadoa Teda ki ger izalacha beresalem, babadou yinoutam, arba meot shana. Ils vont être exilés, tes enfants, pendant 400 ans. Mais Abraham a demandé une preuve de la rédemption. Et Dieu lui donne une preuve de l'exil. Il lui montre l'exil encore plus profond. Au moment où on veut savoir, on rentre dans une polémique de la dualité. Le savoir, tu es dans la dualité. Tov vara. Pour comprendre une chose, il faut le contraire. Il y a la nuit que s'il y a le jour. On peut comprendre le jour de la lumière que par les ténèbres. Qu'est-ce que c'est la vie sans la mort? Le jour où tu consommeras cette voie, et sa date, alors tu dois mourir. Parce que, qu'est-ce que c'est la vie pour nous? La vie, c'est qu'échapper à la mort. On mord parce qu'on a peur de mourir. On dort, on veut, etc. On profite de la vie parce qu'on a peur de mourir. On construit une maison parce que, qu'est-ce qu'il y aura demain? On veut garder quelque chose pour nos enfants. Mais si on nous disait, écoute, vous allez vivre 3000 ans, alors notre regard sur la vie serait tout à fait différent. Et si on vous dit, vous allez vivre 3 milliards d'années maintenant, c'est insignifiant. Qu'est-ce qu'on va faire 3 milliards d'années? Il n'y a pas de programme pour 3 milliards d'années. Il y a un programme pour construire une maison, pour une hypothèque de 25 ans, 30 ans, comment, 70 ans, 80, maximum. Qui a un programme pour 3 milliards d'années? Ceux qui investissent dans la Torah, alors ils ont un programme pour des millions d'années. Mais ceux qui ne sont pas dans la Torah, ou ceux qui ont une Torah de la temporalité, aussi ne comprennent pas très bien qu'est-ce qu'ils ont à faire. Et qu'est-ce qu'on peut faire pendant 3 milliards d'années? Parce que notre regard ou notre compréhension d'une chose, elle passe par le contraire. Pour nous, la vie est comme ça une référence parce qu'il y a la mort. Et donc, quelqu'un à 70 ans, il ne vit pas comme à 40 ans. Et quelqu'un de 40 ans, il ne vit pas s'il avait 20 ans. Tous corrigent leur vie à un moment donné. Et il y a les sages à partir de 18 ans, ou d'autres à la bar mitzvah déjà, ont compris donc quelle est la voie à entreprendre. Mais d'autres, il faut attendre plusieurs années. Et en attendant, Kol Yamenu, toute notre vie, Panu Be'Evanatecha, ils sont partis. Tous nos jours sont partis, il ne reste plus rien du tout. Et qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'on a réalisé dans notre vie? On n'a pas pris conscience de cette réalité qui s'appelle l'éternité. Parce que notre vie, elle est par rapport uniquement à la dualité. C'est uniquement par rapport à cela, par rapport à cette limite. Mais est-ce que l'homme est capable de comprendre la voie de l'unique? Est-ce qu'on peut comprendre le Tahor sans le Tamé? Est-ce qu'on peut comprendre le mouton, ce bassard qui est cachère, s'il n'y a pas le Chazir? Qu'est-ce que c'est le jour s'il n'y a pas la nuit? Qu'est-ce que c'est la nuit s'il n'y a pas le jour? Et donc, on ne peut pas comprendre. On a une difficulté à saisir cette voie de l'unique. Parce qu'on veut vivre dans la vicissitude. On veut vivre dans la relativité. On veut vivre dans le temps, dans la temporalité. Et dès qu'on parle de temporalité, on parle donc de relatif, une chose par rapport à une autre, par rapport à une référence. Il y a la terre ferme, il y a la mer, il y a la terre, il y a le ciel. On est plongé dans cette dualité. Et notre vie fonctionne selon cela. Cependant, il y a une autre voie. Il y a une autre voie que le peuple d'Israël apparemment aurait dû quitter la voie de la dualité avec l'Égypte, pour rentrer dans une voie de l'éternité avec Matan Torah, avec les premières tables de la loi. Harut al-Luchot, Atikra Harut et la Herut. À savoir, on ne veut plus comprendre une chose avec son contraire. Il n'y a plus de jour, il n'y a plus de nuit. On est entièrement avec Dieu. Veniflinu aniva amecha. On aurait pu être un peuple qui serait distingué de toutes les nations. Un peuple qui vit sans les médecins. Il n'y a pas de médecin ici. Hein. Un peuple qui vit sans les hôpitaux. Un peuple qui vit sans aucun besoin de ce monde. Veniflinu, c'est voir vivre Dieu dans ce monde à travers ce peuple d'Israël. Être la présence de Dieu. On était appelé à Tem Eda et vous êtes mes témoins. Des témoins vivants. Mais là, si on meurt, Et si on a besoin de vos hôpitaux, et si on, vit comme eux, comme tout le monde, alors il n'y a pas de véniflé, nous. On ne peut pas se distinguer réellement. Bon, on peut se distinguer par une sagesse, mais pas plus que cela. Dans la réalité, il n'y a aucune différence. Malheureusement, il y a les mêmes maladies, il y a les mêmes problèmes, et économiques, et à tous les niveaux. Bien sûr, il y a une particularité, mais apparemment, il n'y a aucune différence. Et c'est la raison pour laquelle, même parmi nous, les peuples d'Israël, beaucoup ont quitté donc la voie de la sagesse, la voie de la Torah. Parce que, cette voie de la rationalité qui doit me permettre d'être différent. Si je suis cette Torah, donc c'est un mode particulier. Donc je dois obtenir quelque chose de particulier. C'est aussi une erreur. Parce que ceux qui voient Dieu uniquement à un niveau de Sachar Veronesh, c'est-à-dire au niveau donc de récompense et punition. Alors eux aussi se trompent parce que ils ont fait une action, alors ils doivent obtenir la récompense de cette action. Ils ont fait une avéra, l'autre a fait une avéra, ils doivent obtenir le châtiment de cette avéra. C'est aussi une erreur. S'il y a la récompense et la punition, c'est parce qu'il y a une voie qu'on appelle Etzadat. Parce que on ne veut pas recevoir de Dieu sans comprendre. Alors nous allons recevoir de Dieu, qui vient la même chose, ce qu'il doit nous donner, mais selon notre voie à nous, notre mode qui vient de comportement, à savoir Tovara. En d'autres termes, pour être plus clair, Hakavuru veut donner à un homme $1,000,000. C'est clair, tout le monde comprend. C'est une récompense. Mais en réalité, il ne s'agit pas d'une récompense. Ce don que Hakavuru veut donner, c'est une matanat hinam. C'est un don gratuit de Dieu, pour une raison qui nous échappe pour le moment. Maintenant, l'homme, lui, il veut recevoir telle chose, non pas d'une manière gratuite. Il ne veut pas Nahama de Kisufa. Il ne veut pas le pain de la honte. Il veut donc l'effort. Il va obtenir justement ce que Kadosh Baruch Hu a ordonné, mais par sa voix à lui, qu'on appelle la récompense. Maintenant, l'autre aussi, Akabrou a décrété pour lui tel châtiment. Pour une raison qui nous échappe pour le moment. L'homme ne veut pas recevoir comme cela. Alors Dieu doit justifier qu'il veut pourquoi il te donne telle action. Parce qu'il ne veut pas recevoir de lui directement. Par ta voix à toi, et donc il t'attend au tournant. Et tu as fait tel avéra, donc maintenant tu vas obtenir tel châtiment. Ceci dit qu'il y a une anaga qui nous échappe. Une anaga qu'on appelle l'anaga de la souveraineté, la direction divine de la souveraineté. C'est la voie unique. Emi shiomalo mataase ou matifal ki akol maase adam. Personne ne lui dit qu'est-ce qu'il y a à faire. Dieu est souverain et il décide ce qu'il veut selon un plan qu'on appelle le tikkun haklali, la réparation universelle de tout ce qui existe. Et il donne non pas par rapport à ce que tu as fait, mais par rapport à ce que le monde a besoin pour la révélation de Dieu. Mais moi, je ne veux pas me comporter pour travailler pour quelqu'un d'autre. Même si c'est au-delà de moi. Je veux obtenir selon mes actes. Alors, en vérité, Akadosh Baruch Hu va t'amener à œuvrer, à travailler, à faire par rapport à tes besoins. Mais tu ne sais pas que inconsciemment, tu travailles pour lui. Et que tout le monde travaille pour lui. Et que tous œuvrent pour lui. La différence, c'est qu'il y a des gens qui sont conscients que tout ce qu'ils font, ils le font pour la gloire de Dieu. Et d'autres, ils le font pour eux. Et ce qu'ils reçoivent, c'est grâce à eux. Et ce qu'ils ont perdu, c'est à cause d'eux. Ils sont dans la voie de Etzadat, de Tovara. Ceci dit que c'est très compliqué à comprendre, en vérité, comment, en même temps, il y a une voie que Dieu nous donne, promulgue, uniquement selon sa volonté. Il est souverain. Et il fait tout uniquement selon son plan. Et il y a une voie où apparemment je suis libre. Et dans cette liberté, j'agis, qui vient dans la volonté de Dieu, pour qu'il me donne ou pour qu'il me châtie. Comment accepter ce paradoxe qu'il y a en même temps une liberté humaine d'agir et que mon acte engendre ceci ou cela et il y a une direction divine où en mi shemol matas, sematiba, kani Hashem. L'Oshaniti. avant de compromettre la liberté humaine, il est préférable de se défaire de la liberté plutôt que d'affecter la souveraineté de Dieu. Je dis la souveraineté de Dieu parce qu'il est écrit « Ani Hashem lo shaniti ». Moi, Hashem, je ne change pas. Il n'y a pas de transformation. Je ne change pas. Ce que je veux, comme dit le Rambam, « Ena adam rose, ena mashek abru rose ». Mais puisque, au fait, je ne peux pas accepter cette kfia, cette soumission, cette annihilation de mon savoir, de mon expérience, je veux voir les choses arriver. Qu'est-ce que Akamrou a fait? Il a caché sa pensée. Comme dit le Ramchal dans le Kalach, la dissimulation de la pensée divine me donne la liberté. Donc la liberté n'est qu'une dissimulation. Je ne sais pas qu'est-ce qui m'attend. Je ne sais pas si cette affaire que je veux faire, est-ce qu'elle va donner quelque chose ou pas. Je ne sais pas si la femme avec qui je me marie va me donner un enfant ou pas. À savoir, il y a une dissimulation. Et cette dissimulation me donne la possibilité de faire l'affaire ou de ne pas faire l'affaire. Mais en vérité, Ribono Shel Olam, cette yédia, elle est connue chez lui que telle personne va réussir ou ne va pas réussir dans cette affaire ou pas. Ceci dit que le tour est déjà joué. Mais puisqu'il n'y a pas cette révélation, donc il y a une place à l'homme à quoi faire? À croire en Dieu. La place que Dieu a donnée à l'homme, c'est uniquement d'accepter cette souveraineté de Dieu et donc de croire qu'il y a un rôle en lui. Et quelqu'un qui m'a dit une fois, si c'est comme ça, alors à quoi ça sert de prier? Puisqu'en fait le tour est joué. Et donc qu'est-ce que je changeais à l'affaire? Il a déjà décrété tout. Effectivement, il a raison. Mais en réalité, la prière, c'est pas un coup de téléphone. Allô, est-ce que je peux recevoir un kilo de pommes de terre? Est-ce que je peux recevoir ça? C'est pas ça la prière. La prière, dans le mot jamais écrit, c'est la ptila. C'est la proximité avec Dieu. C'est cette flamme. C'est cette mèche. Ptila, la mèche où on brûle, on s'allume à partir du contact avec Akadosh Baruch Hu. Dieu m'a donné la possibilité d'être debout. La amod lifnei hamelech, comme dit le Rambam. Quelqu'un qui prie est debout devant le roi. C'est se mettre debout devant le roi. La prière, son but, c'est d'amener l'homme à côté de Dieu. Maintenant, est-ce que Dieu te donne ou pas? Toi, tu ne sais pas. Tu dois lui demander de toutes tes forces. Et s'il te donne, eh bien, c'est exactement c'est ce que tu as besoin pour ton meilleur bien. Et s'il ne te donne pas, c'est ce que tu as besoin, c'est ce qu'il faut pour ton meilleur bien et de tous les autres. Parfois, il faut un srout, parce que Dieu ne veut pas te donner gratuitement. Parce que Dieu, il donne aux chiens gratuitement, les chiens. Le chien, c'est un bassa, c'est une chair. Dieu donne le pain à tous. Mais le chien, on n'exige pas de lui qu'il demande, ni qu'il fasse une bonne action. Dieu aussi doit lui procurer la nourriture. Mais l'homme, Dieu demande de lui un srout. Il doit aller chez le tzaddik demander la bracha. Il doit faire la tzedaka pour obtenir. Il doit faire parfois un acte extraordinaire pour obtenir ce que Dieu va lui donner. Parce que Dieu l'aime. Parce que malheur si Dieu te le donne facilement. Si donne facilement, c'est qu'il n'attend rien de toi dans le tikkun. Mais si par contre tu vois qu'il y a un empêchement, c'est que là tu dois agir maintenant. Tu dois agir d'abord chez les maîtres. De recevoir une etza du tzaddik, de donner une tzedaka de toutes tes forces, et là obtenir bisrout velo bitzdaka. Sinon, alors tu vas t'efforcer différemment, non pas au niveau du sacré, mais au niveau du profane. Tu vas travailler 14 heures par jour, et quand tu dors, tu vas aussi être préoccupé par ta parnassa, et tu vas pas obtenir ce qu'il faut jusqu'à on va sortir ta dernière goutte de sang. Parce que tu n'as pas choisi la voie de la Torah. Mais il y a ou l'effort de la Torah, ou l'effort dans le sacré, ou l'effort dans le profane. Parce que l'effort aussi dans le profane, c'est aussi ton Dieu. Comme dit le Rambam dans Sécharim, tu paies ton knas, tu paies ton impôt. Knas à Enoshi, c'est l'impôt du genre humain qu'il doit payer pour obtenir. Parce qu'on ne voulait pas obtenir directement par le Etzachaim. Etzachaim, c'est la voie droite. C'est la voie où on obtient directement. il y a une voie où on obtient par le contraire, par l'effort. D'abord, il n'y a pas. Parce que pour nous, on ne peut pas comprendre qu'est-ce que c'est se rassasier si on n'a pas faim. Parce que pour nous, on ne comprend pas qu'est-ce que c'est dormir s'il n'y a pas la fatigue. Mais il y a ce qu'on appelle une autre voie, la voie de Etz Hachaim. Le roi Salomon a parlé de ces Koach Etim, de ces 28 moments que se partage la lune. Et Litfo, et Litkroa. Un temps pour déchirer, un temps pour coudre, un temps pour rire, un temps pour pleurer. Mais qu'est-ce que c'est rire ou se réjouir s'il n'y a pas la souffrance? Au fait, c'est faux. Cette voie, c'est la voie de la dualité. C'est la voie de Etz Hadaat. C'est la voie même qu'après avoir reçu la Torah, on continue à vivre la Torah aussi par la voie de la dualité, à savoir par la voie de la difficulté. Et c'est ça, après les secondes tables de la loi, les premières tables de la loi, le Riza nous dit que les secondes tables de la loi d'après nos maîtres correspondent à le Talmud Bavli, au Talmud Yerushalmi, au Midrash, à savoir à la discussion. Nous ne voulons pas directement recevoir de lui. Si on avait reçu les premiers tables de la loi, on aurait eu uniquement 5 livres. C'est tout. Et le Sefer Yoshua. On aurait eu juste 5 livres de Torah. Bereshit, Shemot, le Pentateuque. Mais maintenant qu'on ne veut pas accepter cette soumission, alors on rentre dans la dualité. On rentre dans la dualité, à savoir, on veut aussi parler. On veut aussi dire quelque chose. On veut comprendre en posant la question. Ne donne pas de réponse directement. Parce que si je donne une réponse, c'est une sagesse. Tu n'es pas disponible à la recevoir. Parce que pour accepter quelque chose, il faut que je sois coincé quelque part. Il faut d'abord que j'ai un manque, j'ai une lacune. Quand j'ai une lacune, donc j'ai une question. Et c'est la voix de la Gemara. Il y a la question et il y a la réponse. C'est la voix de Etz Hadaat. C'est la voix de l'Exbame Eda. Comment saurais-je? Le savoir suppose le questionnement. Il faut un Geinam pour qu'il y ait un Gan Eden. Mais en vérité, qu'est-ce que c'est le Geinam? C'est l'absence du Gan Eden. Le Ramban dit que le Geinam, c'est la perdition, c'est le Avadon. C'est où tu es perdu. C'est le Sheol. Le Sheol, c'est la question. C'est quoi le Gan Eden? C'est la Tshuva, c'est la réponse. Donc, c'est l'absence de la réponse, c'est la question. Mais il faut la question pour une réponse. Non, il faut la question pour la réponse dans la Etz Hadaat. Mais il y a un niveau qu'on appelle la Dvekut, l'adhésion à Dieu, l'amour de Dieu. Dans l'adhésion, la Dvekut avec Dieu, on reçoit sans poser la question. Comme entre un homme et une femme. Il comprend ce qu'elle veut sans qu'elle lui demande. On me dit dans la Gemara, malheur à l'homme qui attend que sa femme lui demande. C'est par rapport à Dieu aussi. Malheur à l'homme qui attend que Dieu le questionne par les épreuves, par la Shoah, pour qu'il fasse Tshuva. Vous comprenez? Parce qu'on veut cette voie. On veut cette voie de la difficulté pour obtenir. Mais malheur à l'homme qui suit cette voie. C'est la voie de Etz Hadaat. Si tu la suis, alors tu t'as mis les difficultés. Il y a une autre voie. La voie de la Dvekut. La voie de la Dvekut, c'est la voie de la prophétie. Où tu reçois directement d'Akadosh Baruch Hu sa pensée à lui, épurée de toutes les difficultés. Terminons avec la Matzah. Après cette longue introduction sur la notion de Etz Hadaat et Etz Hachaim, nous allons comprendre, Be'ez Hashem, nous développerons cette idée pendant Shabbat que je veux commencer maintenant seulement et qu'on appelle chez les grands, chez les Mekoubalim, chez le Rizal, Shvirat HaKelim. Shvirat HaKelim, cette notion va nous permettre de comprendre pourquoi l'exil. Si nos maîtres disent dans la Gemara que la cause de l'exil, c'est à cause d'Avram Avinu, mais en vérité, les Midrash nous disent que c'est à cause de la vente de Yosef. Parce qu'on a vendu Yosef. Mais la vente de Yosef aussi, c'est quand il envoie de Emek de la plaine de Hebron, il s'agit de Etsa Amoka, chez l'auto Tzadik, chez Kavur Behebron. Il s'agit de Tzadik qui est enterré à Hebron. C'est Avram Avinu, c'est la Xéra donc qui commence. Mais en vérité, Rabbi Shimon, dans le Sifre, il nous dit quelque chose d'extraordinaire. Et dans le Mechita aussi, c'est rapporté. Que c'est Ayeka. C'est lorsque Dieu dit à Adam Arishon, Il lui dit, Ayeka, où tu es? C'est ça la question. Où tu es? Où tu es? Non pas où tu te trouves, où tu es? Le Zohar nous dit, Ayeko. Ko, c'est café, les 25 lettres du Shema Israël. Où est l'unité de Dieu? Où est la présence divine qui était en toi? L'exil, c'est la perte d'identité. Ou c'est la perte de l'intériorité. Notre perte, on a perdu notre essence. On a perdu notre neshama. C'est ça la Gola. La Gola, entre la Gola et la Geoula, c'est le Aleph qui diffère. C'est ça toute la différence. Il manque le Aleph. Il manque le Ichoud. Donc, quand Dieu lui dit Ayeka, selon Rabbi Shimon, Ayeka, Echa, Yashva, Badad. Echa, c'est la lamentation de Yirmiyahu, de Jérémie. Comment l'assemblée d'Israël, tu t'es retrouvée toute seule? Echa, comment tu te retrouves toute seule? Comment tu es seule? Comment tu es devenue solitaire maintenant? Tu es avec moi. Echa et Talezona, comment tu es devenue prostituée des nations? Echa, Yashva, Badad. Comment tu es devenue toute seule? Comment tu te retrouves toute seule? C'est Dieu qui pose la question maintenant, Adam Arishon. Donc le Echa de Badad d'Israël, l'exil commence avec Adam Arishon. Mais on va aller plus loin maintenant, avant Adam Arishon. Avant Adam Arishon, il y a aussi l'exil. Il y a aussi l'exil. Et si on comprend l'exil avant la création, parce qu'il y a la Matzah avant la création du monde, il y a la notion de l'exil avant la création du monde. Il y a Akedat Yitzhak avant même qu'il y ait un Abraham et Yitzhak. La demande expresse de Dieu de prendre Yitzhak et de le ligoter fait partie aussi du plan divin. La Torah, c'est le plan divin, c'est l'esprit de Dieu. Il n'y a pas le seul monde de saisir ce qui nous convient à nous, ce qu'on veut comprendre. Il faut aussi descendre dans le texte pour comprendre ce que Dieu veut, lui. Si je m'arrête seulement à cette rationalité, alors je suis encore dans la Hetzadat. Je suis encore dans le Hetzadat. Je suis perdu dans le Hetzadat. Même dans mon étude de la Torah. Qu'est-ce que c'est l'exil en dehors de la création du monde? L'exil au-delà de la création, c'est la chose suivante. Il y a un grand mystère, un grand sot dans la Rizal, que je commence seulement à expliquer, mais nous développerons Be'ezrat Hashem pendant Shabbat. Il y a, à un moment donné, l'existence, ce que va devenir l'existence, va se séparer de Dieu. C'est quoi l'existence? C'est l'idée de la création. Comme quelqu'un qui a une idée de construire une maison. Il y a une idée de construire une maison. Cette idée, elle se trouve où? Si tu imagines maintenant cette idée dans ta pensée. Tu as une idée. Cette idée maintenant, elle est inscrite dans ta pensée. C'est une réalité. Cette metziout qui est dans la marshava, qui est au sein même de la pensée, à un moment donné, elle va se séparer. Elle se sépare de la lumière divine. Elle se sépare de la pensée qui, elle, est inhérente à Dieu. Donc la pensée qui est inhérente à Dieu et qui émane de Dieu, on va l'appeler or, la lumière. Elle émane de Dieu. Et cette pensée, et cette lumière, au sein d'elle-même, il y a un keli. Un keli, c'est pas un récipient, c'est le moyen d'expression de la force. Tenez-vous bien, c'est maintenant la cerise sur le gâteau. C'est quoi le moyen? Moi, je dis souvent, les Mekoubalim, quand ils parlent de Keli, ne croyez pas qu'on parle d'un verre. D'après le Ramchal, on parle du koach, de la force qui va exprimer. C'est le bitouille de la marchaba, c'est l'expression de la pensée. Regardez une scie. Quand vous coupez un arbre, vous avez besoin d'une scie. C'est quoi la scie? C'est un keli. C'est un ustensile, c'est un moyen. Et qui exprime exactement ce que vous voulez. Vous voulez scier, vous voulez couper. Si je vous donne un stylo, vous ne pouvez pas couper un arbre avec un stylo. Vous pouvez écrire. Donc, il exprime votre volonté maintenant. Le keli, c'est une expression. La terre aussi, c'est un keli. C'est une expression de la volonté. J'ai un grain, la terre, elle exprime ce grain. Elle va sortir les germes qui vont faire le fruit de ce grain. La femme aussi est comparée à un keli. Elle va exprimer aussi. Israël va exprimer Dieu. C'est le keli aussi de Dieu. C'est le moyen de Dieu. Donc ce n'est pas nécessairement un vase, un contenant. Ceci dit que les lettres aussi, c'est un keli. Les lettres forment aussi une expression. Il y a une pensée et je dois l'exprimer par une parole. Donc la parole, c'est une expression de ma pensée. Et si je ne le dis pas, je n'ai rien exprimé. Ceci dit que, revenons à ce que nous avons dit, l'existence, le keli, était enfermé dans le or. À un moment donné, le keli se sépare du or. Il y a un keli qui est séparé du or. Ce keli a l'impression qu'il peut dominer, qu'il peut subsister tout seul. C'est ce que dit le Zohar, « Ela melachim Hashem alchu be'eretz Edom. Lifne melach melem Yisrael. » Il y a un verset dans la Torah qui exprime cette révolte. De qui? Des forces divines, des premières forces, et qui veulent dominer. Voici les rois qui ont régné à Edom. C'est quoi ce Edom? C'est la rigueur, c'est la force, c'est le pouvoir. Dieu se sépare de cette idée, mais pour pouvoir donner une réalité. Parce que si on ne se sépare pas d'elle, alors il n'y a pas de possibilité de réaliser le monde. Pour réaliser le monde, il faut se séparer de ce réceptacle. Il faut se séparer de ce keli. Au début, c'est englouti. Tout est englouti à l'intérieur de cette lumière. Mais c'est ça, il y a aussi le retrait, la lumière se retire, et il y a donc une réalité qui est nouvelle, mais qui était cachée au sein de l'essence. Donc revenons à ce que nous avons dit. L'existence, le keli, va apparaître au moment où le or ne va pas rentrer dans le keli. Il va se séparer du keli. Parce que le keli veut dominer. Et comme dit la Gemara, concernant l'orgueilleux, Dieu dit, moi et lui, on ne va pas habiter ensemble. Dieu, quand il va en orgueilleux, il ne rentre pas, il ne l'attaque pas. C'est kelim, c'est force. Même s'ils sont le fruit divin, Dieu dit, moi et lui, on ne peut pas habiter ensemble. Donc la lumière se sépare du keli. Et qu'est-ce qui va se passer? C'est là donc cette symbolique qu'on appelle la shvira. La shvira ou la brisure, ou plutôt la séparation. La séparation de l'existence qui est déchue et qui va pénétrer dans le monde du créé, à savoir de la bria. Donc dans le monde de la temporalité, du temps. Il y a un temps qui commence, mais il commence avec la mort. Il commence avec la perdition. Il commence avec l'extinction. C'est-à-dire, comme dit la Torah, Ve'aolam tohu vavohu. Après, Vayomer Elohim yehor. Avant qu'on parle de création réellement, et Dieu dit que la lumière soit, la Torah nous parle d'un monde qui est brisé. Olam tohu, kutsavokobo, olam tohu machrivan. Il y a un monde détruit. Après, il y a un commencement. Mais le commencement commence après une destruction. À savoir pourquoi destruction? Destruction, en vérité, cela signifie uniquement un départ. Parce que cette existence, elle pensait pouvoir subsister toute seule. Mais avec une petite batterie. Et cette batterie, elle lui permettait, kivyachol, de rester autonome. Mais à un moment donné, quand elle va perdre le souffle, elle dit, ça y est, tout s'arrête là. Et donc, soit elle prend conscience et elle invoque Dieu, et elle veut retrouver la présence divine, ou bien elle tombe dans la perdition. Elle tombe dans l'avadan olam. Écoutez, Rabotai, maintenant c'est le point principal. Et c'est là donc le sens de l'exil. Et là vous allez comprendre qu'est-ce que c'est la matzah. Parce que celui qui n'a pas compris la matzah comme cela, il n'a rien compris à la matzah. Parce qu'on n'est plus dans la farine et de l'eau maintenant. La matzah, c'est plus de la farine et de l'eau, c'est au-delà de cela. Qu'est-ce qui fait que les kelim, l'existence, elle veut prendre une position de force, d'autonomie? En vérité, c'est cette séparation. Mais vous allez dire, c'est pas cette séparation. Il n'y a pas de possibilité non plus d'avoir une réalité séparée. C'est quoi le rat? Le rat, c'est uniquement cette séparation avec Dieu, avec l'unité. Mais on a besoin de ça. C'est comme un bébé, il est dans le ventre de sa mère. Il faut qu'il se sépare. La petah hatat rovetz. Où commence le mal, disent nos maîtres? C'est à la sortie du ventre de sa mère. Tout le temps qu'il est à l'intérieur, tout le temps que l'existence est l'intérieur de l'unité, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de mal. Mais dès qu'elle se sépare, dès qu'il y a bria, il y a mal. Yotzer ou bore chosher, ose shalom ou bore ra. Le verset dit, il forme la lumière Yatsero ou Bourré Rocher. Il crée les ténèbres. On sait Shalom, il crée la paix et il fait le mal. Bourré Ra, il crée le mal, c'est qu'il crée le mal. C'est, il s'agit du mal ontologique, du premier mal. Le mal ontologique veut dire Metsi'utara. C'est quoi Metsi'utara? Dès que tu te sépares. Donc c'est quoi le Tov? C'est revenir. Le monde était en exil pendant 6 jours. Pendant 6 jours de création, il y a l'exil. L'exil, c'est la création. Il n'y a pas Dieu maintenant. Il y a le monde. Le Olam Saint Elem. Le monde, c'est une dissimulation même de Dieu. Et donc on est dans l'exil déjà au début même. La création est dans le Tov. Et donc nos maîtres, où ils apprennent? Où nos maîtres apprennent l'exil? Amarish Lakish, Veolam Touba, Bou, Vechosher, Abneterom, Elo, Arba, Galuyot. Il s'agit des 4 Galuyot, des 4 exils. Donc déjà la création du monde, dès qu'il y a création, il y a tous les exils. Ceci dit, maintenant que le monde a été créé, il faut revenir. Adam Arishon doit. Je me suis séparé de toi juste pour te mettre au monde. Maintenant, il faut ramener ce monde. Cette création était nécessaire, ce mal ontologique est nécessaire, juste pour nous séparer, pour te donner une réalité. Pour te donner une réalité. Mais après que j'ai une réalité, ne t'en va pas. Retourne vers moi. Shabbat. Fais un Shabbat. Retourne à moi. La chouve. Reviens. Non, non, non. Maintenant, je vais vivre mon temps. Adam, herir zmano behet'o. Ce que dit le Ramchal, que Adam Arishon a prolongé son temps. Avec quoi? Avec sa faute. La faute, c'est le temps. C'est la... Donc, on veut pas l'éternité. On veut pas rentrer avec l'éternité. On veut la relativité. On veut la nuit, le jour, etc. On veut le Tov et le Ra. Si le mal est nécessaire, c'est pour donner une réalité à la créature. Mais la créature, elle n'a pas de possibilité de vivre si elle ne retourne pas à lui. Si elle ne s'unit pas à lui, elle est perdue. La batterie, elle termine. Les rapach nitzutzin, c'est cette batterie, les 288 étincelles, vont tôt ou tard terminer, maximum 6000 ans. Et après, c'est fini. Mais heureux l'homme déjà qui a pris conscience et il arrache les étincelles de la temporalité et il les met dans l'éternité. Chaque instant que tu prends, ce qu'on vous retarde maintenant, les instants du temps qu'on vous prend de votre femme et de vos enfants, ils sont inscrits dans l'éternité. C'est ça qu'a dit David HaMelech. L'imnot yamenu kenoda. Apprends-nous à compter nos jours. L'imnot yamenu kenoda. Pas des jours vains, des jours qui passent, insignifiants. Ketzel over, comme une ombre qui passe. Chaque jour avec une réalité. Chaque jour avec une leçon. Alors, c'est quoi la Géoula? La Géoula, c'est le Shabbat. C'est le retour. Veshavti. Veshavt. Hashem et Chibutecha. Dieu ramènera les exilés. Mais aussi, nous devons être ramenés et revenir pour avoir la bataille. L'exil, c'est la séparation de la lumière des Kélim. Cette séparation. Mais maintenant, quel est notre rôle? Donc il y a l'exil. Tout le monde est en exil. Même les goyim sont en exil. Pourquoi ça nous frappe qu'à nous? Non. En vérité, dit le Arizal, la lumière est rentrée dans les Kélim. Elle est rentrée un instant, dans une petite place. Après, elle est ressortie. Lorsqu'elle est rentrée, elle a imprégné une partie de l'existence, qu'on appelle la crème. C'est quoi cette crème? C'est Israël. Israël, kach alab marshava techila. Israël, c'est la première marshava. C'est la première pensée. C'est le début du Keli. Je dirais, c'est la première facette de l'existence. Alors, la lumière n'est pas entrée jusqu'au fond des Keli. Alors vous allez comprendre maintenant. La lumière est rentrée dans le Keli. Elle n'est pas entrée à l'intérieur, dans tout le Keli. Parce que là-bas, il y a une domination, on veut dominer. Mais Israël accepte. Ceux qui acceptent s'appellent Israël. L'ifne meloch melech b'Israël. Chut. Alors, c'est quoi cette lumière qui rentre jusqu'au fond? En vérité, la lumière ne rentre pas jusqu'au fond. Elle rentre juste au début. Mais ce que Dieu, Kivyachol, n'a pas fait, d'intégrer tout le Keli, c'est à Israël de le faire. Israël, c'est l'expansion même de la pensée de Dieu. Israël, c'est l'expansion, c'est la pashtout du haut. Vous comprenez? Israël, donc, c'est la suite de cette lumière. Ce que la lumière n'a pas fait d'intégrer toute l'existence au service de Dieu, à reconnaître Dieu, c'est Israël qui va le faire. Donc maintenant, on comprend, non pas par rapport au bien et au mal, pourquoi on est en exil à cause de nos fautes. Mais penahatainu. Non, ça c'est après la faute d'Adam Arishon, on veut comprendre par les fautes. On veut comprendre par le tov et le ra. On veut comprendre par la nuit et le jour, la lumière et les ténèbres. Mais il y a notre voie. Il y a notre voie par rapport à Dieu, c'est la voie unique. Dieu veut une chose. Maintenant, toi, tu ne l'acceptes pas. Eh bien, tu vas l'accepter. Par tes voies tourmentées, par tes voies qui sont distorsionnées, par tes heshbonot arabim, par tes faux calculs. À savoir, tu vas réaliser en fin de compte la volonté de Dieu, ce qu'il voulait, lui. Mais à travers tes brisures à toi. Mais en vérité, il y a un autre sens. Il y a un sens de la matzah. La matzah, c'est pas seulement terem echmat betsekam. Il y a le Hametz, il y a la Matzah. Il y a l'exil, et il y a la rédemption. Adraba, la Matzah, c'est la rédemption. C'est quoi la Matzah? C'est la Metziout, avant le Ra. Le Seor, la levure, le levain, c'est le Ra, 19 mètres. C'est le Ra, c'est le mal. C'est le gonflement. Il y a un état de l'existence sans le mal. Mais c'est quoi le mal? Le mal, c'est le principe de séparation. Oui, il y a cette séparation, mais tout de suite, on veut revenir à lui. Donc la matzah, on ne donne pas la possibilité à la nature d'agir. On ne laisse pas la patte toute seule. Alors, c'est symbolique. On laisse pas la patte toute seule. Il n'y a pas de levain. La nature n'agit pas. Il faut obtenir exactement la forme la plus originelle possible. C'est-à-dire qu'en fait, la matzah exprime, c'est un symbole qui exprime l'existence même, mais sans le gonflement, sans le rat. On va revenir à une réalité, mais sans le gonflement, sans le seor sheba issa. C'est au fait, c'est le tikkun de Shvirat HaKelim. La matzah, c'est revenir à l'état originel d'une metziout, d'une existence, sans être affecté par le moteur même de cette existence, par la condition même de cette existence, qui s'appelle la séparation de lui. Le pouvoir, dominer, l'envie. C'est là le sod de la matzah. Le sod de la matzah est quelque chose d'extraordinaire. Pendant 7 jours, nous vivons une réalité, la réalité de l'existence, mais sans être affectés par la forme, par l'envie, par le désir. Nos maîtres disent que ceux qui se délectent de la bonne odeur du four, c'est comme la convoitise d'une femme. Pourquoi? Parce qu'en vérité, dans le goût du pain, il y a quelque chose d'extraordinaire. Pas dans le goût de la matzah. Pas dans la matzah, c'est le brûlé, c'est l'incinération. C'est, si vous laissez encore quelques secondes dans le four, c'est une tarte grillée complètement. Dans le pain, ça veut pas dire que c'est interdit de sentir l'odeur. On a droit de sentir l'odeur. C'est pas ça que je voulais dire, que nos maîtres veulent signifier par là. Ils veulent comparer seulement. Ils veulent comparer la délectation de la convoitise avec une autre délectation qui, elle, n'est pas interdite. Ou du moins n'est pas interdite au même titre, Chas v'Shalom, que la convoitise. Mais il y a la femme qui ressemble à ce pain. Mais l'Echem Asher, il m'a dit, le pain qui est avec moi dans la maison, à part ce pain, à part le pain, Yosef a dit, à part ta femme. Tout m'appartient ici, à part le pain. Et nous maîtres disent, c'est quoi le pain? C'est la femme de Potiphar. À part le pain, à l'exception du pain. C'est là un grand sort, bien entendu, qui nous amène à comprendre cette notion donc de ta'ava, de désir, de convoitise, qui l'homme déjà, dès qu'il ouvre les yeux, ta'ava hu la'inaim, il va apporter quelque chose. la nature veut donner sa part. Et là, dans la matzah, on ne laisse pas la nature nous imprégner. Parce que de toute façon, pour terminer, l'homme se comporte selon deux modes. Ou l'intellect naturel, ce qu'on appelle la sechel ativé, ou bien il a un autre sechel, sechel à Elion, sechel à Nifrad, sechel à Nifdal, l'intellect agent, l'intellect séparé de la nature. Tout le monde a un intellect que la nature lui a donné. L'aigle, il a son intellect. Il a sa faculté de comprendre les choses qu'il a besoin pour vivre. Mais l'éléphant, il a aussi un intellect. Et cet intellect, ce qu'il a besoin pour vivre et subsister, et pour apporter à ses enfants ce qu'il a besoin. La nature a aussi son intellect. L'homme aussi a son intellect. Malheur si l'homme se suffit de cet intellect, de subsister, manger et dormir et tirer plaisir. Alors dans Etz Hadaat, comme dans les Luchot Shniot, on a cherché que ce plaisir. Kizemoshe lo yadanu. Mitlala batashomehaen. Ils veulent savoir juste ça. Ce niveau de Elohim, Asano Elohim. Ils ne veulent pas connaître cette volonté de Dieu de la Torah. Ils veulent comprendre la Torah selon leur rationnel. C'est ça Luchot Shniot. Et Luchot Rishonot, c'est l'écriture de Dieu. Et Luchot Shniot, c'est la Torah chez Béal Pé, c'est notre rapport à nous. Notre nature, on apporte notre nature. Mais on va réparer cette nature. Il faut 6000 ans pour la réparer. Il y a un niveau qui te déconnecte de la nature, et donc de la mort, de la fin. Harut ala luchot. L'intellect naturel, c'est l'intellect qui me permet de saisir les choses. Mais notre intellect, c'est la prophétie. Et qui passe par la Kdusha. À Pessah, on a arrêté avec l'intellect naturel. On arrête avec la vie. On arrête avec la réalité. Les Aser HaMakot, les 10 plaies, c'est la brisure des sphirot de ce Olam HaNekudim, de ce monde qui est du Tohu ou du Chaos. De ce monde de la séparation. Alors on se sépare avec ce monde qui nous sépare de Dieu. L'aspect naturel. Et on rentre dans un autre niveau, qui est celui de la Matzah. Ba'avourze, c'est grâce à cela. Maintenant, on comprend, c'est pas l'histoire. C'est pas l'histoire de l'Égypte qui a provoqué la Matzah. C'est la Matzah qui a provoqué. Parce qu'il y a, et toutes ces mitzvot, parce qu'il y a une découverte de Dieu. Dieu veut te dévoiler quelque chose. Alors tu veux vivre ton histoire à toi, notre histoire à nous, pour dévoiler ce qu'il veut. Parce que toi, tu comprends uniquement par le rationnel. Bameda, alors yadot eda. Tu comprends que par le contraire. Ce qu'on ne veut pas comprendre directement par la sagesse, on va le comprendre par l'écho. Les épreuves dans ce monde, c'est aussi une Torah. Les épreuves que nous vivons, c'est une Torah aussi. Ashrei Adam Ashetea Serenouya, ou Metoratecha Telamedenu. La Torah, c'est aussi les épreuves que nous vivons. Mais si on tire une leçon de ces épreuves, il y a un autre niveau où on doit tirer la sagesse sans l'épreuve. Et ce que dit M. Charim, chez Kolmi, chez Mitpael, Mina Moussarim ou Mina Limoudim, Eno Tsarich Li Tiaser Begoufo. Celui qui prend le sang directement de la Torah, des études, de l'enseignement, il n'a pas besoin d'être éprouvé dans son corps. Eno Tsarich Li Tiaser Begoufo. Parce que tu as atteint cette même vérité par la voie de l'expérimentation. Adam Avraham Avinu, il aurait dû vivre tous les exils uniquement au niveau de la pensée, sans les vivre, sans que nous puissions les vivre au niveau de la pratique, de la réalité historique. Mais puisqu'il veut savoir, tu veux savoir, très bien, tu dois passer par l'expérience du temps. C'est ça le temps, c'est ça le Zman. Il y a l'éternité et il y a le temps. Rabbi Shimon nous a révélé l'éternité. Dans ce livre, dans chaque paracha, il y a un thème qui est commenté selon l'esprit divin. À savoir, on ne comprend pas maintenant à Knit Yitzhak le sacrifice pour nous apprendre le sacrifice. Dans l'acte de Knit Yitzhak, il y a une grande leçon. Leçon de Dieu, que ce que lui, il fait dans son plan, mais qui s'exprime à travers une enveloppe. Avec ce livre, vous allez arrêter d'être dans les enveloppes. Vous allez commencer à ouvrir l'enveloppe. Mais Baruch Hashem, ceux qui m'ont connu, m'ont entendu déjà Baruch Hashem, on a ouvert plusieurs enveloppes ensemble. Mais dans ce livre, 52 parachutes, 52 thèmes, et qui vont vous amener dans un autre savoir, une autre approche, l'approche où Dieu est dans le centre. Je ne cherche pas à voir l'homme, qu'est-ce que ça me donne à moi. Non, qu'est-ce que ça donne à Dieu? Qu'est-ce que lui, il veut? Est-ce que ça le but? Malheureusement, il y a une difficulté. Je pense qu'aujourd'hui, on est arrivé à ce stade de cette recherche. Cette recherche qui est, au fait, la Kabbalah. La Torah éclairée par la Kabbalah, c'est le sous-titre. La Torah éclairée par la Kabbalah, parce que c'est la Kabbalah qui nous permet d'atteindre cette vision ultime, authentique de la Torah. La Torah, ce n'est pas une histoire. Caïn et Hevel, on n'a rien à faire de lui. Qu'il a tué son frère, et on n'a rien à faire de cela. On n'a pas besoin de ça pour croire en Dieu. Le Marhoudi, il y a des histoires chez les goïms plus belles que dans la Torah. Et qui peuvent nous donner une leçon encore de morale plus importante que ce qui est dans la Torah. Parce que dans la Torah, il n'y a pas seulement une leçon de morale à tirer. Il y a une leçon que personne ne peut donner, seulement la Torah. La leçon de Dieu. La vision de Dieu. Dans chaque mitzvah, dans chaque homme qui est rapporté dans la Torah, si on me rapporte Korach, ce n'est pas pour m'apporter la jalousie, ce n'est pas pour m'expliquer sur des grandes lignes et beaucoup de détails, la jalousie d'un homme contre Moshe, mais c'est pour m'apprendre un mode de direction divine que Akadosh Baruch Hu a installé dans la création pour nous amener au but ultime qu'on appelle Gilou Yahudo. À savoir, tout tourne autour de ce même axe qu'on appelle la raison de l'unité. Celui qui ne comprend pas la Torah de cette manière, alors il ne comprend pas Dieu. Parce que la Torah est là, va chez Vota Eleva Vecha, pour répondre à ton cœur, que Hashem Hua Elohim. Que Dieu immanent, c'est le Dieu transcendant. Le Dieu d'en haut, c'est le Dieu d'en bas. Ce qui se passe en bas ne se sépare pas et ne se distingue pas de sa volonté. Que tout ce qui se passe, c'est sa volonté. Mais pour cela, il faut me donner les codes de la compréhension de ces événements. Donc voilà une idée donc de ce livre qui nous éclaire à partir de la Chokhmah de Rabbi Shimon Rochai, du Zohar, du Arizal et du Ramchal, parce que ce sont ces grands maîtres de la Kabbalah qui nous permettent de comprendre cette autre approche, une autre approche de la Torah. Ceux qui sont arrêtés à la première approche se voient confrontés à de nombreux problèmes, à de nombreuses questions, où il n'y a pas de réponse. Où il n'y a pas de réponse. Il y a une grande difficulté à les donner, et on est obligé de le digérer. Par contre, ceux qui vont suivre cette voie, c'est le Shahashua, c'est la Melech. Parce que tu descends dans la voie unique, la voie sans fin, une voie éternelle. Et là, dans ce cas, tu vas dire, 3 milliards d'années, c'est pas suffisant pour contempler Dieu. Mais si par contre, quelqu'un, il n'a pas cette voie, va dire que 3 milliards d'années ou plus, c'est insignifiant. Il n'a pas besoin de tout cela. Mais si il commence, il aborde seulement cette recherche dans ce monde, il verra que c'est une voie qui ne termine pas et que chaque jour, c'est une découverte. Chaque moment est un dévoilement. Parce que il travaille sous un autre angle, l'ordre de la sagesse, l'ordre de la prophétie. Voilà donc